Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. On ne m'ôtera pas de la tête que c'est une drôle d'idée quand on travaille en duo de trouver un nom de scène qui n'a rien à voir avec les patronymes respectifs des protagonistes. Prenons par exemple, au hasard, le Palmachot. Plus d'actualité que les frères ennemis, célèbre couple d'humoristes des années 70 qui n'étaient pourtant ni frères ni ennemis. Oui, prenons le Palmachot et passons-le au crible de notre sagacité. Les deux individus qui le composent ne sont ni frères ni ennemis non plus et sont même aussi éloignés physiquement que peut l'être un pangolin d'un suricate, et je laisse à chacun d'entre eux le loisir de décider lequel est le pangolin et lequel est le suricate. Comme leurs noms respectifs sont David Marsais et Grégoire Ludig, ils auraient pu choisir de se rebaptiser Marlu par exemple, voire Capitaine Marlu, mais non, ils ont choisi le Palmachot, un peu comme si Charline et moi avions opté pour Pipo et Bimbo, la Bimbo n'étant d'ailleurs pas celle que l'on pourrait croire dans notre couple radiophonique, mais c'est une autre histoire. Cette émission a pour titre Palmachot, cacao, Palmachot, chaud, chaud, chocolat. Oui, alors là, normalement, c'est le moment où notre réalisateur lance le jingle et de toute évidence, il a refusé, sans doute en invoquant je ne sais quelle clause de conscience, peut-être même professionnelle. Enfin bon, allez, pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paune.
C'est pas grave. Salut à tous, c'est Palmachot. On est dans la rue et c'est pas grave, parce que ce soir, on est à 16h dans l'émission d'Antoine de Cône.
Pop, 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 je sais pas combien il y en a.
À base de pop, 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 il y en a plein.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, on vous embrasse, à tout à l'heure. Ben, à tout, on vous embrasse.
Et bonjour donc David Ludig.
Bonjour
Grégoire Marsais.
Très beau message.
Oui, il était bien celui-là, c'était très professionnel.
Ouais, complètement.
De la rue, hein, comme ça, live.
Toujours.
C'est ça. Très, à côté du périph.
En impro total, donc je vous rappelle qu'il y a 3 pop, pop, pop.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Pop, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 7, pop, pop, pop. C'est très simple. Bon, à force de vous voir ensemble, on ne sait plus trop d'ailleurs qui est qui, c'est normal de vous confondre.
Oui,
non
oui.
Surtout à la radio.
C'est le but.
On est souvent confondus. Hein.
Est-ce que vous auriez la gentillesse d'aider nos auditeurs à identifier vocalement qui est qui, là?
Eh bien, là, c'est Grégoire, par exemple. Coucou,
la
c'est Grégoire.
Un peu plus grave.
Ouais, je crois. Ouais. Ouais, et là, c'est David. Bonjour.
Oui, si c'est pas Grégoire, c'est que c'est David.
C'est ça.
Forcément. Ben voilà.
Ouais, comme ça, ça marche.
Tous les repères sont posés.
C'est bien.
Bon,
parfait.
Qui que vous soyez derrière vos masques, parce que j'espère que vous êtes bien, Grégoire et David, bien
entendu. Du côté Daft Punk dans cette annonce.
Bienvenue dans Pop, Pop, Pop. Grégoire, David, aujourd'hui, vous venez nous présenter d'une seule voix votre nouveau film Les Vedettes, qui sort au cinéma mercredi, soit une semaine avant la Saint-Valentin.
Ah oui.
Oui, et Grégoire et David, vous souvenez-vous de votre dernier passage ici?
Non.
Non, je m'en souviens. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avoir le jour de la Saint-Valentin, c'est une pure coïncidence.
Ah ça, je ne sais pas, oui.
Non, je crois pas, moi. Je crois que les gens ont décelé des choses.
Mmh. Ah ouais.
Je pense que ça tombait très bien, moi.
Depuis Santa et compagnie,
ouais, tout à fait. Possible.
Alors, hasard, coïncidence, comment se fait-il qu'à chaque fois vous apparaissiez au moment de la Saint-Valentin, tous les deux?
Ah, c'est cette bromance qui nous quitte pas, tous les deux, voilà, cette histoire d'amitié qui est une forme d'histoire d'amour aussi.
Mm-hmm.
Je pense que c'est le symbole de tout ça.
Mm-hmm.
Tu as bien répondu, David.
Ouais, c'est bien. Hein
ouais, c'est très bien.
Ouais, ouais.
C'est vrai que la Saint-Valentin, comme... c'est bientôt.
Oui, bah, évidemment que c'est très bientôt. Ouais.
C'est étonnant.
C'est ce qu'on va trouver de mieux.
Bah, voilà. Bon, messieurs, comme l'heure qui s'annonce est placée sous le signe de l'amour, mais surtout du vedettariat, je vous propose pour commencer cette émission qui a déjà démarré depuis, allez, 4 minutes maintenant, un morceau du groupe Les Vedettes, justement. Et le morceau en question s'appelle Joe Star. Mais il n'est pas chanté par le Jaguar, mais par des vedettes, donc. Suivez un peu.
Oui, on l'a.
C'est parti.
Tu me plais avec ton costard. T'es bien.
Les vedettes dans Pop 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 avec le Jaguar qui arrive à la fin. C'est un morceau que nous avons écouté avec deux vedettes, Grégoire Ludig et David Marsay, venus nous présenter les vedettes, leur nouveau film. Vous connaissiez l'existence de ce groupe, Les Vedettes, vous non plus ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Mais je suis pas déçu.
La musique a une place très 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 importante dans votre nouveau film. Nous allons donc en parler dans un instant avec Charline Roux. Mais au-delà du film, la musique a une place considérable dans votre duo, vous qui partagez l'amour des mélodies et surtout l'amour du texte.
Salut à tous et bienvenue dans Clip and Hits. Cette semaine dans l'émission, on va découvrir le podium musical de la semaine et on commence tout de suite avec le numéro 3. C'est le titre le plus joué dans les autos tamponneuses, c'est le plus antillais des mecs de Rouen, il aime la poésie et sait parler aux filles. Je parle bien entendu de Kenvi.
Parce que l'amour et le respect des femmes sont les choses les plus importantes. Alors petit message à celles que j'aime.
Je vais te claquer les fesses et t'appeler ma chérie. Je veux qu'on fasse du sexe et que tu toute la nuit. Je vais te saigner la et ton à sec. Sur ton petit boule de on va s'y mettre à sec.
Le palmacho.
Je tiens à préciser que les bips sont dans le sketch, qu'ils n'ont pas été bipés là.
Ils n'ont pas été bipés par France Inter.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas le genre de la maison.
Le pire, c'est qu'on rigole encore de nos propres blagues. Si on n'a pas le droit.
Nous sommes même plusieurs à en rigoler.
Ah, ça fait plaisir.
Alors, c'est Kenvi, rien à voir avec Kinvé.
Non, pas du tout.
Non, on est bien d'accord. Ni avec Kevin.
Non plus.
Ok, voilà. Rassurez, vous pensiez qu'un jour, Kenvi serait joué sur la première radio de France ou pas? Vous étiez dans vos rêves les plus fous, vous étiez dit, peut-être.
Franchement, non. Franchement, non.
C'est une forme de consécration, en tout cas.
Oui, là c'est
une forme très de consécration. Je suis à deux doigts de le jouer en intégral.
Vous pouvez, hein.
Oui, mais non, parce que j'ai plein de questions à vous poser. Donc, non, pas aujourd'hui. Peut-être demain.
Avec plaisir.
Ok. Bon, Grégoire, avant de vous passionner pour le cinéma, c'est justement la musique qui vous a tenté. Oui. Adolescent, vous aviez un groupe qui s'appelait Palmarès. Et dans votre studio insonorisé par des boîtes à eux, vous rapiez.
C'est pas faux.
Qu'est devenu Palmarès?
Un très très bon souvenir.
Oui.
Un très très bon souvenir. On avait quand même un DJ. Mm-hmm. Il y avait deux rappeurs, Vincent
et
moi-même. Et il y avait un DJ quand même qui savait ambiancer les soirées yvelinoises. Mm-hmm. Je vous le donne en mille.
DJ David. Voilà. Moi-même, deux platines.
Déjà David.
Avec du scratch lamentable, je crois. Mais voilà, j'étais derrière déjà.
On était heureux, on tuait le temps, on écrivait des choses, ça nous permettait d'être entre potes et d'être créatifs entre potes, on va dire.
Alors attendez, si vous étiez déjà tous les deux palmarès, palmacho, ça veut dire que tout est lié ou c'est juste l'idée de mettre tous vos projets sous le signe du pal? Je me comprends.
J'ai peur de comprendre également. Non, c'est clairement lié. C'est clairement lié. Quand on a commencé à monter sur scène avec David, quand on a écrit des sketchs, qu'on a joué à la queue les Yvelines dans la salle des fêtes, on s'est dit, bon, on fait du show, on va garder Palmacho, tiens, et en fait, on n'a jamais changé.
Puis à 17 ans, ça sonnait un peu américain, on trouvait ça cool.
Ouais, clairement. Ça sonne toujours américain.
Mais bien sûr.
Bah, oui. C'était plus des exercices de style, de faire rimer, que de vraiment dénoncer quelque chose, dites-vous.
Oui.
Mais alors, d'où vient ce côté protestataire? Et est-ce que vous pourriez... Non, je sais que c'est loin, c'est trop loin, et vous allez me dire non, on n'a plus les textes. Vous pourriez me faire revivre le palmarès.
Qu'est-ce qu'on avait écrit comme texte? Attendez, vraiment, je peux chercher.
Voilà, j'étais sûr.
Moi, il y a le trop coup de...
Trop de coups de pression, d'oppression. J'ai l'impression que c'est la dépression.
C'est pas mal.
Il y avait un petit côté météorologique là-dedans.
Ouais.
On peut y voir plusieurs lectures.
Il y avait l'amour du verbe déjà.
Il y avait l'amour du verbe, l'amour du mot.
Ouais.
L'amour de la sonance aussi.
Oui, la sonance, il y avait des allitérations, il y avait pas mal de trucs. Vraiment, on était dans un truc où ça nous faisait rire de faire rimer les mots.
Ouais. Et déjà très en avance sur l'époque.
C'est pas faux.
Ah ouais, mais c'est pas faux de le dire aujourd'hui. Et vous, David, côté musique, en dehors du scratch, du DJing, vous êtes arrêté au niveau flûte à bec en troisième, c'est ça?
Oui, complètement. Moi, chanter, c'est une vraie douleur. D'ailleurs, ça s'entend un peu dans les sketchs, parfois. Quand Greg enregistre une musique en deux prises, moi, je l'enregistre en une semaine, environ. Mais une semaine tous les jours, vraiment.
Une semaine non-stop.
Pleine, voilà.
Cinéma et musique sont étroitement liés à votre parcours, Grégoire et David, et vous avez même eu l'occasion de jouer avec un réalisateur qui a la particularité d'aimer le cinéma et les saucisses qu'il mange grâce à son double en écoutant ce son. C'est Flatbeat de Monsieur Oiseau alias Quentin Dupieux. Vous étiez les deux stars avec la mouche, bien entendu, de son dernier film Mandibule. Comment s'est passée cette rencontre avec Dupieux
en Ça a commencé par Grégoire qui avait fait Au Poste avec lui.
J'avais été contacté par Quentin via Twitter en me disant « Est-ce que tu connais mes films ?» Et je lui ai dit « Très mal ». Donc on s'est rencontrés. Et donc il y a eu cette aventure Au Poste qui était géniale. Et
avec
Benoît Poulvord, exactement. Et du coup, forcément, moi qui voyais toujours David en même temps, en écrivant, on s'est rencontrés, on s'est présentés. Et puis, je crois que Quentin avait vu un sketch de nous, ça s'appelait la start-up, quand il monte une start-up où on est deux mecs un peu débiles qui pensent avoir des idées d'appli révolutionnaires. Il aimait bien l'énergie de ce truc-là. Et surtout, pendant Au Poste, je lui demandais un peu ce qu'il allait faire plus tard. Il me dit, j'ai un concept de film, c'est deux mecs qui trouvent une grosse mouche géante dans un coffre de voiture. Ok.
Pitch.
Au final, le pitch est né Mandibule et il l'a écrit sur mesure. On était très honoré de cette proposition.
Est-ce que ça veut dire que Grégoire a imposé David ?
Non, c'était pas une imposition. C'était quoi ? Ça s'est fait naturellement, je crois. C'est une évidence, exactement.
Et dans ce film, vous étiez Jean-Gab et Manu, soit deux amis un peu simples d'esprit. Et dans votre nouveau film, vous n'êtes pas non plus ce qu'on pourrait appeler des lumières. Est-ce que c'est agréable pour vous de vous mettre en valeur comme ça au cinéma, à travers votre travail?
On voit pas l'affiche, mais ce qu'on aime, c'est aussi faire des raies au milieu. Et on trouve que c'est vraiment très très important.
Et avoir des doubles manteaux.
Et des complexes de supériorité et une grande naïveté. Voilà.
À partir de là, on peut injecter beaucoup de comédie dans les personnages comme ça.
Touché à rien, ça me plaît ça. Ce nouveau film, Les Vedettes maintenant, nous allons en parler dans un instant avec Charline Roux, juste après un extrait de la BO justement, c'est Elvis Presley à Burning Love.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, c'est une vedette picarde, hein, faut-il le rappeler, qui vient de faire son entrée pour nous parler de Les Vedettes, le nouveau film des deux vedettes, Grégoire Ludig et David de Marsay. Plongez-nous dans le vedettariat, Charline.
Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien, votre partenariat avec ma région, j'ai l'impression.
Ah, pour l'instant, hein, tout va bien. J'envisage d'aller y passer quelques vacances, même.
Bah, je vous le conseille, je vous donnerai des adresses. Daniel dit simplement Dan, après une tentative de carrière dans la chanson contrariée, travaille dans un magasin d'électroménager pour rembourser ses dettes. Dans le dit magasin, il rencontre Stéphane, le hagnant de la plancha, l'éternel employé du mois, naïf et autoproclamé chef des festivités pour les employés, qui ne voit pas le mépris absolu que lui portent ses semblables. Stéphane a cependant une particularité, il connaît tous les prix, un super pouvoir qui fait germer une idée dans le cerveau embouteillé de Dan, en profiter pour aller gagner quelques menus deniers dans des jeux télé. Si je résume en annonçant Step Brothers chez les frères Dardenne, est-ce que ça vous va?
Moi j'aime beaucoup, j'adore.
Ok, pourquoi? Je prends.
Ça nous va, ouais. Très bien. Ouais, oui, c'est une bonne analyse, c'est pas faux.
Ben oui, je pense que c'est la géolocalisation un peu de ce film qui fait ça. L'idée qu'on a voulu situer l'histoire dans des... Dans plutôt des ZAC, zones pavillonnaires, qui sont peut-être un peu moins filmées au cinéma. Mais le but, c'était surtout de créer des zones neutres, comme c'est un film qui se veut à la fois très réaliste et en même temps un peu satirique. Il fallait des endroits qui parlent absolument à tout le monde. Et on trouve que justement, les ZAC et les pavillons sont des régions neutres.
Les Vedettes, le très attendu nouveau film du Palmachot, ça donne ça.
On me dit que vous chantez.
Oui, mais non, ça j'ai arrêté ça.
Chantez pour les gens qui sont seuls.
Merci Daniel, quel beau bras.
En haut les barricades.
Ok, tout le monde, on a un champion, regarde les caméras sur lui.
T'as un talent fou. Pourquoi t'as arrêté la musique?
C'est une longue histoire ça, Stéphane.
Ça te dirait de faire le clip de Simplement Dan?
Ok, mais te foire pas.
Tu devrais faire attention Daniel, je trouve que tu t'empantes vraiment vite.
Bientôt je serai chanteur.
Mais c'est quoi ce mec, t'emmerde?
C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu.
Les Vedettes, alors c'est certes une comédie, mais pas que. On y rit beaucoup, jaune parfois, tant le fond de l'histoire, ces deux personnages paumés dans un monde sans pitié et qui vont être instrumentalisés parce que la télé a de pire, sonne juste. Cette note-là, qui relève de la satire, comme vous le soulignez, David, il y a quelques instants, c'est le prolongement naturel du Palmachot aujourd'hui.
Ouais, je crois. Ouais. On utilise beaucoup ce procédé de complexe de supériorité, en tout cas des personnages. On part des personnages naïfs. Donc à travers eux, on peut clairement faire passer les petits travers de la société. Mmh. Et on aime ce rapport un peu dominant-dominé dans nos personnages, ouais. Où il y en a un qui pense avoir l'emprise sur l'autre. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait aussi avec les candidats de jeux télé et les productions télé. Il y en a un qui... Enfin, on se sert d'eux. Mais il y a un petit côté binaire, mais ça nous permettait vraiment de mettre beaucoup d'humour, malgré tout, dans ce constat-là, en fait. Mmh.
Mais un humour noir, par moment. Quand je dis qu'on rit jaune, oui, il y a des trucs qui sont tellement en écho avec le réel.
Oui, mais en tout cas, on ne se moque pas de... Enfin, je crois pas qu'on se moque de nos personnages.
On rit avec eux,
comme dit Grégoire. C'est des types qui ont des besoins de reconnaissance très forts. On aime dire que c'est deux types en marge, voilà, qui par chance se sont trouvés dans leur bêtise. Ouais. Deux types très seuls qui ont fini par se trouver.
Saluons la réalisation de Jonathan Barret, votre camarade de toujours. Le film réussit le tour de force d'être un vrai film de cinéma sur la télé. Est-ce que c'était là l'une des principales difficultés?
On a toujours dit qu'on ne pouvait pas faire ce film en premier film, en tout cas. Mm. Parce qu'on venait de Internet et de la télé. Faire un film sur la télé en venant de la télé, c'était dangereux. Ouais. Et quand on a eu cette idée-là, c'est vrai que beaucoup de gens nous ont mis en garde. Attention, la télé, c'est pas toujours très joli au cinéma. On n'a pas forcément envie de voir ça.
C'est vrai qu'on vous rejoint sur le travail de Jonathan. Jonathan a regardé je sais pas combien d'émissions télé pour essayer qu'on ait un rendu qui ne soit pas cheap. Je crois qu'il s'est référencé sur des émissions sud-africaines pour les couleurs du prix à tout prix, du jeu qui se rapproche du juste prix. Et ça, toute la magie du film, ça a été vraiment de varier entre le côté fiction et vraiment être à l'intérieur des jeux télé sans que ça nous fasse sortir du film, justement. Et ça a été... nous, on trouve que ça fonctionne très bien.
Ce monde des jeux télé, dont les codes sont retranscrits à la perfection, du producteur ultra-cynique, l'excellent Julien Pestel, au décor un peu sujet à crise d'épilepsie, en passant par l'animateur faussement sympa, qui parle que par gimmick, l'excellent également Damien Gillard. C'est un univers que vous fréquentez assidûment en tant que téléspectateur ou Pas du tout.
Je dirais plus du tout.
Plus du tout, oui. C'est, nous, on est nés dans les années 80, donc on a
regardé... Vous êtes sevré.
On est sevré.
C'est vrai qu'on en a, ouais.
Mais on a beaucoup regardé la télé dans les années 90. Bien D'ailleurs, sûr. C'est là qu'on a découvert Les Inconnus, qu'on a découvert Les Nuls, qu'on a découvert L'Esprit Canal, puis le film du dimanche soir. C'est à ce moment-là qu'on, je pense qu'on a été des éponges.
Oui, tout à fait. On s'est nourri de tout ça, ouais.
Et puis, on regardait aussi Le Juste Prix chez nos grands-parents, l'après-midi, ou quand on était malade. Donc, il y a une forme de...
De petite nostalgie là-dedans.
Petite nostalgie, ah voilà.
Ouais, c'est vrai.
Il y a un côté très années 90 d'ailleurs, dans cette comédie, un côté assumé. Et je vous cite, parce qu'on est forcément nostalgique de ces années-là, eh ben on a retranscrit les jeux qu'on avait en mémoire. Quelles étaient les références des jeux justement, puisque que vous aviez en tête avant de commencer l'écriture ?
Je pense vraiment que Le Juste Prix, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de parodier... Parce que ça nous a toujours fasciné les gens qui étaient appelés et qui descendaient avec le V de victoire.
Avec une joie immense.
Mais en fait, ils sont tellement...
Ce visage de ouais. c'est moi et de, je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on tient le film.
Ouais, en fait, c'est transformé, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ok, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire autour de ça pour en faire une comédie? Mais c'est vrai que Le Juste Prix, ça a été vraiment... C'est bête de dire ça, mais ça a été un moteur pour ce film, je dirais.
Le prix à tout prix, d'ailleurs, c'est un excellent titre. Hein.
Oui,
vous
on est
pensé
on est
à déposer la marque, parce que ça peut être repris.
Et bah, merde, oui, ouais, ça, voilà.
J'envoie un texto, là, tout de suite.
J'ai un ordinateur, si vous voulez.
On est tellement nul à ça.
À Le Prix à tout prix, je prends.
Et le titre du film en dit déjà long hein, sur les deux personnages que vous incarnez. Les vedettes, l'appellation contient déjà en elle-même toute la ringardise de Stéphane et Dan, deux personnages en quête de reconnaissance. Vous disiez deux personnages qui n'ont aucun recul, aucune jugeote quant au regard qui est porté sur eux. Et pourtant, deux personnages que vous avez choisi de ne pas rendre forcément sympathiques. Ils sont capables d'être aussi laids et veules que les salopards cyniques qu'ils fréquentent. Est-ce qu'il fallait ce décalage-là entre empathie et méchanceté pour que la satire fonctionne ?
Alors, tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression que la réponse est un petit peu dans la question. C'est vrai parce qu'on était...
C'est malin.
Non, mais justement...
C'est malin, Charlie. Non, vraiment,
non ça veut dire que...
La réponse à je me suis mal exprimé.
J'ai bien compris
le film. Je me suis mal exprimé. C'était ce que je voulais dire, pardon. C'est vrai qu'avec David, on aime partir des personnages un peu avec, enfin, remplis de défauts, faire une comédie avec des personnages pour qui tout va bien, pour qui il n'y a aucun problème. Ouais. Ça ne nous intéressait pas. On voulait trouver des tares, on voulait trouver des trucs dans les trois frères, dans les inconnus. Mmh. Didier Bourdon met des caméras de surveillance dans les cabines d'essayage pour regarder les femmes se changer. C'est atroce, mais bon, quand on regarde le film, ça nous fait marrer.
Louis de Funès, il est autoritaire, il est colérique, il est lâche, il collectionne tous les défauts. Il est ignoble, mais on l'aime.
Mais on adore,
et c'est ça, nous on trouve ça plus intéressant de donner des défauts aux personnages pour faire de la comédie.
Et pour les nourrir ces personnages, Grégoire, vous vous êtes appuyé sur votre côté chanteur, très belle voix by the way, si je peux me permettre. Et vous David, sur votre besoin de contrôle, sont-ce là les seuls points communs entre vous et vos vedettes?
Le double menton, si, ça je l'ai en commun, ça.
Il y a ça. Et oui, ce petit côté, je sais pas, avec Daniel, oui, c'est peut-être ce petit côté un peu nonchalant. On verra un petit peu demain ce qui se passera, et puis c'est pas si grave au final.
Ouais. Je tiens à dire que j'adore les barbecues aussi.
Et les plans de chat.
Je vous souhaite
les plans de chat.
Je vous souhaite d'être invité chez David pour faire. Et
alors, ah ouais, vraiment le roi de la plancha.
Oui, j'adore. Voilà.
Et pour en terminer avec le chapitre personnages et réalité, on est d'accord que toute ressemblance avec des personnes existantes et ayant existé est purement fortuite dans ce film.
Mais réellement, oui, tout à fait. Réellement, on ne s'est jamais inspiré de quelqu'un. Non. Je pense qu'on a fait un condensé de
tous les animateurs, animatrices qui existent. Et voilà, on a fait ce personnage de Fred Costa.
Ce n'est pas un film à charge. On ne cherche pas à tirer sur la télé.
Non, pas du tout. Voilà,
mais on a le droit de rire quand même quand on...
Évidemment.
Voilà, bien sûr. On a le droit de s'identifier.
On peut.
Les Vedettes, c'est signé Jonathan Barré. Ça sort mercredi. C'est avec nos deux invités, Grégoire Ludig et David Marsay du Palmachot. Nous allons en reparler dans quelques instants. Mais là, je vois qu'il est 16h28 et 59 secondes. Allez, 16h28. 9, allons-y, c'est l'heure des pop news.
Retour de deux mastodontes de la musique. Le premier nous vient de la perfide Albion, moitié colère d'Oasis. L'inénarrable Liam Gallagher a dévoilé vendredi un tout nouveau single coécrit par Dave Grohl qui assure d'ailleurs la batterie. Ça s'appelle Everything's Electric. Everything's Electric à retrouver sur Come On You Know, troisième album solo de Liam Gallagher qui sortira le 27 mai.
Comeback numéro 2, tout droit venu de Californie, celui des Red Hot Chili Peppers, dont le retour en cache un autre, celui de leur mythique guitariste John Frusciante, au sein de la formation, et leur nouvelle œuvre commune s'appelle Black Summer. Deuxième album des Red Hot, Unlimited Love, produit par Rick Rubin, et ça arrivera le 1er avril.
Dans la mini-série The Offer, Miles Teller, vu dans Whiplash, et Albert S. Reddy, scénariste et producteur canadien, qui a eu la périlleuse mission d'officier sur la saga Le Parrain, la série raconte ce tournage du point de vue d'Albert S. Reddy.
We want to make a movie. This can become a cultural phenomenon, the likes we've never seen before.
Well, then we better get started.
I know how to make this film. It's a metaphor. For the American dream.
This is not just some gangster film.
Makes us look like a joke, and that's bad for business.
This is a story about family. What is our opening line? I believe in America.
Matthew Good y incarnera le producteur Robert Evans, Giovanni Ribisi sera Joseph Colombo, l'un des 5 chefs de famille de la Cosa Nostra, et Dan Fogler sera Francis Ford Coppola. Coup d'envoi de la série aux États-Unis le 28 avril sur Paramount+.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Yeah, that's me.
Alors, je comprends l'ambition. Je pense qu'on est sur Marlon Brando.
Il y a un talent
mais...
d'imitation. Si, il y a quelque chose.
Honnêtement,
je me suis dit, il est là. Il est
moi,
là.
J'avais les yeux fermés. Je m'étais
okay,
dit, mais
il est là. D'accord.
C'est Marlon Lassalle. C'est un mi-chemin entre Marlon Brando et Jean Lassalle. C'est pas trop.
Marlon Lassalle. Il y a Grégoire Ludig et David Marseille.
Je salue le geste.
Replongeons dans votre univers de vedette.
Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel.
Si, si, en plus j'en ai conscience.
Oui, c'est vrai.
Le film Les Vedettes est donc réalisé par Jonathan, et pas Jonathan Barré.
C'est Jonathan et Jennifer.
Il a une carrière aux États-Unis.
Oui,
Jonathan Barré. Vous l'avez choisi pour son nom d'ailleurs.
Oui.
Oui, pour faire David et Jonathan. Grégoire peut dire qu'il travaille avec David et Jonathan.
J'ai la chance.
Et ça lui fait beaucoup plaisir
de pouvoir les voir travailler en studio.
Alors, en réalité, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble parce que c'est avec lui que vous avez créé en 2008 la société de production Blackbuster. Le
oui,
point
exactement.
De départ d'une longue aventure. Jonathan Barré qui vient comme vous deux de Montfort-l'Amaury. Montfort-l'Amaury, ça veut dire c'est le New Hollywood.
Ouais, on peut voir ça comme ça, manière. Avec beaucoup plus de champs et de vaches.
Oui, et beaucoup moins de choses à faire. Donc, mais c'est vrai qu'on était là-bas, on s'est rencontrés, nous, avec David, on filmait nos sketchs avec la caméra du père de David.
Ouais.
Et en termes de
réalisation. Que l'on remercie au passage.
Ben, qu'on remercie. Ouais,
merci
évidemment.
Christian, merci papa.
Et il faut s'avouer qu'on était des. Enfin, on était
nuls,
piètres
dis-le.
Réalisateurs, ouais. Clairement. Et en rencontrant Jonathan, on a vu quelques petits sketchs qu'il a fait. Ouais. Et je pense que lui, c'était notre pendant en acteur. Mais en revanche, en réalisation, il était super.
Donc, que, par exemple, le petit clip, là, à l'intérieur du film, c'était ce genre de niveau de réalisation.
C'est clairement un hommage, je pense, ouais. À nos débuts.
Pas loin.
On peut dire ça. Parce que c'est vrai, quand on a commencé à mettre des sketchs sur Internet, c'était beaucoup plus simple de faire des clips.
Ouais,
parce que, en termes techniques,
voilà. On est deux, une caméra, et puis c'était
voilà.
Tout.
Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un mélange de. Ouais, je crois que c'est un hommage à nos débuts.
Ouais, c'est
clairement un hommage.
Ne le cachons pas, bien sûr.
Dans Les Vedettes, vous choisissez de mettre en scène une France qu'on ne voit pas si souvent, celle des centres commerciaux, des bars karaoké qu'on imagine en bordure d'autoroute, des pavillons tous identiques avec leurs carrés de pelouse clôturés au millimètre près. Ça vous vient d'où ce goût des grands espaces moyennement naturel.
C'est là où on a passé beaucoup de temps dans notre adolescence. On aimait se retrouver avec vraiment notre bande de potes qu'on a toujours aujourd'hui. On allait traîner dans ces centres commerciaux, on allait manger dans les restos, les grandes chaînes de restos pour se retrouver.
Voilà pour avec nous, la salade d'accueil.
Bien avec sûr. Les frites à volonté.
Et d'ailleurs, on faisait semblant à chaque fois que c'était l'anniversaire d'un d'entre nous, comme ça on avait des desserts gratos. Mais chaque semaine, ils sont nés beaucoup de fois dans une année, ces gens-là. Et c'est vrai que pour nous, c'est des souvenirs d'adolescence. Et je pense qu'on parlait de nostalgie télévisuelle tout à l'heure. Il y a peut-être aussi cette petite nostalgie.
C'est pour ça d'ailleurs que Jonathan ne filme jamais ces zones avec tristesse, mais
non,
plutôt
exactement.
Avec bienveillance et
ouais,
le style.
Tout à fait.
Justement, le point de départ du film, c'est Jonathan, hein, le réalisateur, qui le raconte. Écoutons-le. Ça faisait 4 ans qu'on cherchait un sujet pour notre deuxième long métrage. On
était
un peu déprimé. J'ai donc fouillé mon ordinateur où je garde des bouts d'idées pouvant servir un jour ou l'autre. Et je suis tombé sur ce type qui mémorise des prix d'appareils électroménagers aux États-Unis pour participer au juste prix. Alors les garçons ont tout de suite été emballés. C'était une idée totalement absurde, appartenant à un univers parallèle qui les a enthousiasmés. question, qu'est-ce qui se cache d'autre dans le ordinateur de votre
réalisateur? C'est cool que vous ayez eu un message de lui comme ça.
Ah, bon, il a répondu très spontanément.
C'est, cool, ouais, c'est sympa. Ouais. Il ne le fait pas souvent.
Qu'est-ce qui se cache dans l'ordinateur de votre réalisateur?
Je pense qu'il se cache beaucoup de choses. Jonathan a ce, voilà, a ce, je pense, talent à décoter des étrangetés.
Mais tout l'intéresse, en fait.
Voilà, tout l'intéresse. Il a une très grande curiosité et il se fascine pour, bah, typiquement, cet homme qui décide d'apprendre tous les prix pour passer au juste prix. Il y a quelque chose de fascinant. C'est très vite, nous, on s'est dit, mais pourquoi faire ça? Et puis, très vite, tout nous est venu. L'idée de la reconnaissance, il y a le surendettement, il y a la surconsommation. Ouais. Enfin, il y avait un boulevard, quoi. Donc, il arrive à voir.
Je pense qu'il l'avait décelé, effectivement. Ouais,
ouais. Parce que vous vouliez parler de surconsommation.
Oui, au tout départ, oui. On avait écrit un
scénario.
Allons-y.
On avait une idée avec David. C'était un peu comme le grand bazar des Charlots à l'époque. Ouais. C'était de raconter un braquage de centre commercial. Mmh. C'était toute une pléiade de commerçants qui voyaient devant chez eux s'installer une grande enseigne, et tout le monde s'était bon, ok, bref, on va aller faire ce qu'on a à faire là-dedans. Et on a fait lire à Jonathan.
Ouais, on a écrit 4 mois, je crois.
On a écrit 4-5 mois, on a écrit une bonne cinquantaine de pages, et quand on a fait lire à Jonathan, il prend le document, et je crois que vraiment, au bout d'une demi-page, il nous regarde, il dit, écoutez, les gars, franchement, est-ce que ce serait pas nul? Et nous, de lui répondre, mais tu as raison.
Tu as complètement raison.
Mais bien sûr que c'est nul. Et après, justement, il nous dit de nous baser sur des faits un peu plus précis, ou un peu plus insolites. De là, il nous raconte cette histoire de cet Américain qui apprend tous les prix. Et là, on est parti sur l'écriture des vedettes. Et
dites-moi, Grégoire, David, alias le Palmacho, c'est la photo de cet homme en question là qui a tout déclenché lorsque vous l'avez découverte.
Exactement.
À quoi il ressemblait d'ailleurs, cet expert du juste prix?
Il ressemble au personnage de Daniel.
Ouais, c'est vrai qu'il avait un petit côté Daniel, petite chemise hawaïenne, un peu nonchalant. Tu sentais que le mec venait pour s'amuser. Mais c'est vrai qu'il
y avait ironie du sort, je crois qu'il perd.
Oui, en plus, il rate complètement, il gagne rien du tout.
Vous l'avez rencontré, non?
Non.
No.
L'univers carton-pâte des studios télé est lui aussi parfaitement représenté. On sent la science de la coulisse, un univers que vous connaissez bien. Est-ce que l'exercice vous a pas rendu un peu schizophrène?
Non, ça va. On avait un doute quand même de filmer les coulisses de la télé, parce que très souvent, on nous a dit, attention, ça ne sert à rien de faire un film sur le métier.
Ça ne
parle à personne. Mais je crois que depuis quelques années, avec l'arrivée d'Internet, tout le monde qui filme, fait des making-of, je pense que ça y est, c'est acceptable. Ouais, on peut le faire.
Et les shows télé qui parlent de coulisses, il y a énormément de séries sur les coulisses, etc. Ouais, c'est vrai que ça devient un pôle de fascination aussi.
Voilà.
Et puis ce décor de télé-réalité, c'est surréaliste. Vous avez dialogué le film pendant le confinement par Skype. Est-ce que vous pouvez me résumer les avantages du distanciel, comme on dit?
Eh bien,
par rapport au présentiel.
Ça évite de procrastiner. Ouais. Ça amène une rigueur. C'est-à-dire qu'on se dit, on se connecte à 9h et jusqu'à telle heure. Mm-hmm. On s'organise, parce qu'en plus, pendant le confinement, il y avait la vie de famille aussi à régler. Enfin, il fallait participer à tout. Et on était, de 9h30 à 12h30, il faut qu'on soit bon,
il faut qu'on soit efficace.
On se mettait vraiment des échéances. Mm-hmm. Et ça nous permettait d'être vraiment, c'est bizarre, mais face à face. Et on se voit, on faisait vraiment du ping-pong, quoi. J'ai envie de faire une blague quand
avec les raquettes,
on l'avait tous.
Très bon bruitage.
Ouais, merci. Et ça nous a vraiment imposé une rigueur.
Ouais,
vraiment.
C'est peut-être pas mal comme méthode de travail.
Mais c'est pas mal. Mais au bout d'un moment, il faut se voir.
Oui,
au bout de 3 mois, on se disait il faut quand même qu'on commence à, parce qu'on a une tendance à jouer ce qu'on écrit.
Ouais.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on improvise un peu moins.
Cela dit, c'est pathétique de jouer quelque chose seul devant son ordinateur.
C'est pour ça qu'il
y a une mauvaise connexion. Attends, je te le refais. Donc ça. C'était un petit peu
marrant. On était obligé de se voir quand même, au bout d'un moment.
Les Vedettes, c'est le nouveau film de Grégoire Ludig et David Marseille, le Palmacho. C'est à découvrir mercredi au cinéma et j'espère que vous l'aurez compris qu'on a beaucoup, beaucoup aimé ça à Pop, Pop, Pop. Bon, David Grégoire, vous restez avec nous. J'ai l'impression de dire un seul mot, David Grégoire.
David Grégoire, hein,
David,
c'est une autre personne.
Grégoire, oui. Vous restez avec nous dans la suite de Pop, Pop, Pop. Nous allons parler de.
Chevy, okay?
Are you part of this family or not?
Watari Misaki des.
僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。
De la BO, de la série Euphoria, de la série Succession, du film Drive My Car et de pop culture. Tout ça, ce sera après un des derniers morceaux du groupe Falls, Wake Me Up.
We'll be right back.
Wake Me Up, voilà le titre
Antoine
qui tombe
Antoine
à juste titre. Falls.
Je suis bilingue.
C'est extrait du dernier album de Falls, donc qui s'appelle Wake Me Up. Je me rappelle, ça fait beaucoup de répétitions, effectivement. Bref, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Alors, ce son, ce diamant, plus précisément, qui se pose sur un vinyle, c'est ce qui vous évoque la pop culture, David Marsais.
Complètement.
Expliquez-moi ce choix.
Il y a un truc qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est mes enfants qui regardent les pochettes des vinyles et qui ont appris à mettre les vinyles. Sachant qu'avant, ils ont quand même flingué 2-3 diamants, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il fallait poser délicatement. Mais voilà, je suis très heureux de voir mes enfants, parce qu'ils voient une pochette qui les intrigue, mettre le vinyle et écouter sagement.
Quel âge ont-ils, sans indiscrétion?
Alors, ma fille va sur ses 8 ans et mon fils a 5.
Très bien, ils sont bien partis.
Ouais.
Vous, Grégoire, votre son pop à vous, c'est celui-ci. Eh oui, bien sûr, la musique de Jean Mineur au cinéma, ça vous fait quoi d'entendre ça?
C'est l'entracte. Il y a ce côté un petit peu à la fois rétro et à la fois nouveau. Là, on l'a vu, j'ai vu dans les cinémas qu'il avait été rénové, qu'il y a carrément un nouveau film qui présente Jean Mineur. Et le côté pop, pour moi, c'est vraiment ce côté cinématographique qui a besoin d'un nouvel élan. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouveauté qui est en train de s'installer, comment on considère le cinéma et comment on y retourne. Comment vraiment tout ce qui s'est passé l'a transformé un peu. Ouais. Et pour moi, c'est une motivation, c'est une énergie, ce petit Jean Mineur.
Retourner dans les salles, amis auditeurs, je ne dis pas simplement pour vous, le Palma Show.
Oui, retourner dans les salles.
Dans les salles, aller voir ces films tous ensemble, c'est tellement bon. Bon, messieurs, parlons pop, parlons bien, c'est l'heure de votre popliste. Nous vous avons donc demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série, et votre série du moment, Grégoire, c'est celle-ci. Aucune. Donc, intéressons-nous à celle de David. Et cette série, c'est Succession, une série plus souvent citée ici que Joséphine Ange Gardien. Charline, la succession, sujet de campagne électorale s'il en est, c'est une série donc d'une brûlante actualité.
Et comme par hasard, une série dans laquelle se joue l'avenir d'un gros conglomérat média, celui du patriarche de la famille Roy qui a décidé de passer la main, d'où le titre.
You are Kendall Roy.
Is it true? He's on his way?
Well, I don't see him yet. With his stupid walk.
No drama. We're good. The revolution will be televised.
He's our dad, but he was going to send me to jail. He'd do the same to all of us.
Chevy, are you okay?
Are you part of this family or not?
If I back you against dad, you would need to let me take over.
Whoa, Nelly!
Succession, une série lucide, cruelle, d'une satire impitoyable. C'est tout ça qui vous plaît, David?
Oui, 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 énormément. C'est encore une fois les personnages, moi, qui me fascinent. Ils sont cruels, ils sont détestables,
dégueulasse.
Mais on s'attache à eux. C'est quand même fou. Et je trouve ça brillamment écrit.
Voilà.
Oui, tout simplement.
Moi, j'ai essayé Succession. C'est marrant, je vais attirer les foudres de tout le monde, mais j'ai pas réussi tout de suite à rentrer dans Succession. C'est vrai. Mais peut-être qu'il faut que je m'y remette un petit peu.
Vous n'êtes pas en train de vous étirer les foudres de tout le monde, là?
C'est ce que j'ai dit, malheureusement.
Oui, Grégoire... énormément de mails des gens.
Une avalanche. Oh là là, Grégoire, votre livre de chevet en ce moment, c'est Les Idées Noires de Laure Gourège. Charline, je ne connaissais que Les Idées Noires de Franquin. Dites-nous en deux mots celle de Laure Gourège.
Un message laissé par une journaliste invite la narratrice à la radio pour témoigner du racisme dont elle est victime. Un message qui va l'obséder et la faire se questionner sur son identité.
Alors Grégoire, donnez-nous envie de le lire ce livre.
En fait, ça fait écho avec Les Vedettes, je trouve. Les Vedettes, c'est un besoin de reconnaissance, et là, c'est la recherche de son identité. Ça m'a un petit peu fasciné de me rendre compte qu'à 30 ans, on peut avoir un message sur son répondeur et de ne pas comprendre pourquoi on dit « Alors, au fait, tu sais que t'es noir, il faudrait que tu viennes témoigner dans l'émission quand même, parce que le racisme, on en vit tous les jours ». Donc du coup, elle se dit, mais qui je suis, en fait? C'est une remise en question, alors qu'à une trentaine d'années, on commence quand même à se connaître et à savoir qui on est. Et en fait, tout est vraiment remis en question, et c'est traité avec humour et finesse, et c'est très bien écrit. J'ai vraiment adoré ce livre.
Ça s'appelle donc Les Idées Noires de Laure Gourège. David Marsais, je reviens vers vous, disent les banquiers. Le film que vous nous conseillez en ce moment, c'est Drive My Car de Ruisuke Hamaguchi. Charline, c'est le film qui vient de recevoir le prix Inter du Masque et la Plume. Sortez votre plus belle plume pour nous en rappeler le propos.
Rencontre et trajet au sommet entre un acteur et metteur en scène de théâtre traumatisé et la jeune femme très réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur.
Aujourd'hui, nous avons choisi de driver.
Qu'est-ce que c'est ?
彼女です。
渡里美咲です。
僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。
私が若い女だからですか？
David Marsay, pourriez-vous expliquer à Charline, qui n'a pas le permis, pourquoi il faut voir Drive My Car?
Alors parce que ça fait, enfin, il dure 3 heures, que c'est en japonais, que ça a été primé à Cannes et que tout ça normalement devrait
jusque là ça donne envie,
voilà, devrait nous faire courir dans l'autre sens, mais que au contraire non, justement c'est, je sais pas, c'est beau, c'est rare des films qui prennent le temps aujourd'hui. Et voilà, c'est un film sur le deuil et j'ai trouvé ça absolument magnifique.
Grégoire,
je ne l'ai, il doit être magnifique, je ne l'ai pas vu, Drive My Car.
Ne craignez pas de vous attirer les foudres.
Oh, une avalanche.
Non.
Oh là là.
Vous l'avez
de mail.
Vous l'avez précisé, c'est le prix du film étranger pour Le Masque et la Plume, et le film français c'est Illusion perdue de Xavier Giannoli.
Absolutely, ouais. Merci Charline pour ces précisions. Pourriez nous rappeler le nom du réalisateur de Drive My Car?
Drive My Car. Je crois. De Drive My Car.
J'étais sûr. Ryusuke Hamaguchi.
Voilà, c'est ça. Ryusuke. Ah, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure.
Ouais, ouais. Grégoire, faites pas trop le malin, vous, parce que votre chanson du moment, c'est Right Down the Line, de Jerry Rafferty. C'est extrait de la série Euphoria. Découvrez donc des chansons des années 70 en regardant des séries, c'est bien ça?
Bah écoutez, oui, il est jamais trop tard pour faire bien. Enfin, je crois.
Donc vous regardez une série?
Ma femme regarde beaucoup cette série, du coup je m'y intéresse aussi. Et bah déjà la musique, oui, je l'ai trouvée géniale. D'ailleurs, elle la met en boucle à chaque fois, donc j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Après, Euphoria, moi, en fait, j'ai un problème avec les séries, c'est que je regarde vraiment pas. Donc là, je mets vraiment les pieds dans le plat. Je n'arrive pas à me mettre devant une série et à me dire, je vais regarder, je ne sais pas combien d'épisodes.
Il n'y a aucune obligation non plus.
Mais c'est ça la clé. Je me mets une pression pour regarder des séries.
Aucune contrainte.
Le pire, vous savez, c'est que c'est vrai. Je me dis, ok, je vais regarder ça. Je me conditionne. Alors qu'en fait, je n'y prends. Enfin, j'arrive pas à y trouver du plaisir. C'est bizarre.
Bah, Antoine vient de donner le secret.
Mais je vais l'utiliser.
Mais vous nous avez cité Friends la dernière fois.
Oui, Friends. Oui, mais
ça, Friends,
c'est pas pareil.
Friends, ça compte pas. Exactement.
C'était pour dire quelque chose.
Non, je crois qu'il connaît très bien la série.
Oui, c'était pour tirer les foudres une fois de plus.
Non, bien sûr.
Bon, Jerry Rafferty. Revenons à Jerry Rafferty. Eh bien, écoutons-le ce morceau.
Avec plaisir.
Maintenant. Thank you. Right Down the Line de Jerry Rafferty, la pop recommandation de Grégoire Lunig, venu nous présenter avec David Marcel leur nouveau film Les Vedettes.
Et on peut faire confiance à une personne qui s'y connaît aussi bien en musique, ben qui oui. chante aussi bien. Je voudrais qu'on parle de ce vibrato, s'il
on
vous plaît, quand même.
On peut complètement en parler avec plaisir.
On peut l'avoir, ce vibrato
le
en
vibrato
live.
Le vibrato en live, ouais. Bientôt, je serai chanté en live.
Ouais. Ouais.
Moi, je peux vous faire le petit refrain, si vous voulez.
Ouais.
Est-ce qu'on peut avoir un petit, juste un petit... Voilà, ok. Bientôt, je serai chanteur. Des groupes, ils feront mes cœurs. On connaîtra mes chansons par cœur. Car bientôt,
je serai chanteur.
Très bien, ouais, très bien. Okay,
voilà, je maîtrise que le sifflet, moi.
Merci, Grégoire.
Pour avec, non, mais vraiment, plaisir, vous avez un vibrato très impressionnant. Je puis,
sais pas, c'est très gentil, du coup, ça m'a donné envie de continuer. Bientôt, je serai chanteur.
Messieurs, avant de vous redonner la liberté, je me dois de vous faire découvrir un orni. C'est un objet radiophonique non identifié que nous diffusons ici chaque semaine. Ça s'appelle le grand n'importe quoi.
C'est bon, Mathis. Tu peux sortir, t'es libre. Mais tu promets de ne plus jamais faire de caprices pour des bonbons?
C'était il y a 18 ans, je vous rappelle. J'avais 3 ans et demi.
N'importe quoi.
Mes amis, j'ai décidé de reprendre de cette tarte au poireau. Oui. Parce que... elle est délicieuse. Vraiment délicieuse.
N'importe quoi.
Le prestige, c'est la garantie de l'excellence au service de la qualité depuis 1833. Le prestige, exigez la signature de renommée d'experts qualifiés pour votre plus grande satisfaction. Voilà.
Le grand n'importe quoi. Et donc signé Alexandre Verret, et c'est chaque semaine dans Pop Pop Pop. Merci Grégoire, merci David.
Merci à vous.
Visite aujourd'hui. Les Vedettes, ce sera à découvrir au cinéma mercredi prochain. C'est recommandé par Pop
Français.
Pop. Et c'est même le film que vous irez voir mercredi prochain. C'est le nouveau film du Palmachot. Merci une fois de plus de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Merci Charline, merci. Et à demain. Et merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Pierre Faucillon qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Pierre Lemaître vient nous présenter son nouveau roman. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.